Merci d'être là dans ce petit moment de discussion et ce petit moment de podcast. Je t'ai invité parce que ça fait depuis un moment que j'ai envie de créer un peu une série sur un sujet particulier. Et la série du moment, c'est autour de toutes les pratiques qui peuvent accompagner un travail ou un retravail de la vision d'entreprise. Donc pour faire en sorte qu'une direction d'entreprise avec ses collaborateurs puisse arriver à se projeter dans l'avenir, puisse arriver à écrire des choses qui sont entre l'imaginaire et le réel, et puisse ensuite avoir ça un peu comme fond d'énergie qui permet d'engager et de dynamiser tout le monde, d'en définir des stratégies et de pouvoir avancer par rapport à ça. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir une discussion simple et ouverte avec toi par rapport à toi, tes pratiques qui sont liées à ce sujet de vision d'entreprise, et notamment aussi qui est lié à un sujet que je pratique depuis un moment, qui est le design fiction, donc la création de fiction et d'imaginaire, mais en même temps dans une démarche qui sert justement à construire des choses pour l'usage en entreprise. Donc, tu es l'un de ces points de vue. Donc, merci encore d'être là. Et il y aura d'autres points de vue qui arriveront dans les prochains épisodes. Donc, déjà, avec joie, j'aimerais savoir un peu plus qui tu es et ce que tu fais au quotidien autour de ces sujets-là et pas que, quoi.
Merci Fabrice pour l'invitation. Oui, donc je suis à l'origine, je suis suisse, ingénieur suisse. J'ai fait mes formations ingénieur en Suisse et après j'ai fait de la recherche. J'ai fait un doctorat dans le domaine de l'interaction machine. J'étais intéressé par surtout l'analyse de traces numériques. C'était il y a plus de 10 ans. C'est des thèmes qui maintenant sont communs, le big data. Mais en ce temps-là, on était les pionniers à essayer de comprendre le comportement humain et le comportement dans les villes à travers les traces que les gens génèrent. Et c'est à travers mon travail de recherche et en fait que j'ai passé une partie de mon travail, je l'ai fait au MIT dans un laboratoire qui s'appelle le Sensible City Lab, qui avait premièrement la pratique d'une ce qu'ils appellent le omnidisciplinary. Vraiment avoir beaucoup de disciplines, l'ingénierie, les sciences sociales, la physique, même des artistes ou des designers qui s'attaquaient à des problèmes de recherche et surtout à essayer de comprendre un peu les frontières des possibilités de l'analyse de données dans le cadre de la ville intelligente ou en général. Et pour faire ça, en fait, on construisait ce qu'on appelait des urban demos. Enfin, on construisait des prototypes qui étaient des projections dans le futur, des possibilités, des résultats de nos recherches. Et on faisait ça avant même de faire la recherche. Et c'était une manière, en fait, d'inviter des partenaires et des partenaires qui parfois pouvaient financer notre recherche à participer à nos efforts. Et ça m'a vraiment marqué au moment de faire ce genre de travail de recherche. Ça m'a marqué et jusqu'à maintenant, encore maintenant, c'est le genre de pratique que j'ai tendance à, avec ma capacité de créer, de faire des choses, pas en tant que non seulement designer mais aussi qu'ingénieur, faire des prototypes. On fait des prototypes du futur pour pouvoir parler au présent de qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir atteindre peut-être un objectif qui sort de ce genre de prototype. Donc voilà, ça c'est un peu la raison pour laquelle après en terminant mon doctorat, ma recherche, j'ai co-créé le Near Future Laboratory et on a été dans les pionniers à vraiment définir qu'est-ce que c'est le design fiction et quelle est cette pratique et à quoi ça servait. Donc pendant les 10 dernières années, c'est ce qu'on a fait. On a été vraiment travailler avec des clients, faire nos propres projets aussi pour comprendre quelles sont les frontières de cette pratique des design fiction. Donc, voilà pour un background de pourquoi je suis ici à parler avec toi.
Et comment, du coup, ça serait quoi, toi ou vous, votre définition du design fiction, justement, pour pouvoir avoir... votre
Voilà, alors,
perspective sur le sujet.
il y a plusieurs définitions. Un peu chacun un peu la sienne. Il y a une définition un peu plus formelle que d'autres. Pour moi, c'est le mélange de prendre des tendances globales et de prendre des observations locales pour créer des objets tangibles, des prototypes qui permettent de comprendre et d'anticiper ce qui va venir. Et ça sert à provoquer la conversation souvent, à provoquer les imaginaires à partir, ben voilà, pour une audience qui doit être définie, que ça peut être tout à chacun, ou alors dans le cas des entreprises, ça peut être on a une équipe spécifique qui travaille dans un domaine, une équipe souvent multidisciplinaire, ou alors des dirigeants de leur entreprise qui ont besoin de savoir comment déjà de toucher, comment déjà de voir d'une manière très tangible les évolutions possibles de leur entreprise ou dans le domaine dans lequel est leur entreprise.
Et du coup, vous, de votre côté, c'est quoi le processus par lequel vous faites passer, par exemple, justement, les dirigeants d'entreprise pour ce travail de design fiction? Si jamais ils se posaient la question, justement, en disant, bah, tiens, ça va être quoi l'aventure qu'on va vivre avec vous? Comment ça se décompose?
Alors souvent, c'est on n'a pas on n'applique pas une méthode prédéfinie. C'est pas du design thinking, c'est pas les étapes comme ça. Il y a pas un double diamond design fiction. En tout cas, comme nous on le perçoit et comme nous on le pratique, on le fait ces 10 dernières années. Souvent, c'est une conversation, premièrement, comprendre. Souvent redéfinir ce qui est attendu. Souvent la relation qu'on a avec nos clients, c'est on part avec une page blanche. Les gens viennent nous dire, mais on a l'impression que vous pouvez nous aider, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, rien n'est vraiment très défini. Alors la relation débute souvent sur ça, sur qu'on pense nous qu'on peut apporter. Dans les problématiques ou les questionnements qu'ont les entreprises, souvent avec en relation aux technologies émergentes. Encore une fois, c'est simplement nos spécialités. On vient tous les membres de mes futurs ateliers un peu du domaine des technologies et du monde académique en relation avec ça. Et ça, c'est un début. Après, on s'applique vraiment à ce que les gens apprennent aussi à réfléchir au futur. Donc c'est souvent les design thinking, on décrit ça comme c'est une mentalité plus qu'un processus. C'est un peu, il faut se mettre dans l'état d'esprit que l'on va créer et qu'on va créer pas forcément quelque chose pour trouver une solution, mais plus pour imaginer ou découvrir des possibilités. Donc ça se fait, ça peut se faire de différentes manières. Une manière très classique, c'est une manière très itérative. C'est que petit à petit, on commence par un premier prototype, une première idée. Un prototype peut-être prendre différentes formes. Vraiment, c'est pas forcément quelque chose qui est du code ou une implémentation, une application qui fonctionne. Souvent, un prototype, ça peut être quelque chose qui décrit un monde futur. Ou par exemple, un cas classique, c'est de refaire, enfin, d'utiliser le catalogue IKEA pour essayer de réfléchir quel serait le catalogue IKEA du futur et de savoir réfléchir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on décrit pas dans ce catalogue, il y a vraiment aucune vraie solution spécifique pour IKEA, mais on les projette dans un monde futur dans lequel eux avec nous, on peut travailler. Donc, souvent, on peut faire des prototypes qui décrivent le monde. Après, on peut, en fonction des réactions et provocations que ça génère, peut-être entrer dans une thématique un peu plus spécifique. Et souvent, en tout cas, c'est ma manière de travailler. C'est une manière itérative. C'est un accompagnement où, tous les 2, 3 mois, eh ben, on fait un travail, on le présente, on présente le travail tangible, le prototype, on a des conversations, on fait un débat autour de ça. Et à partir de ça, on définit s'il y a une suite à la découverte à faire ou si ce qu'on a fait était suffisant pour répondre enfin, au questionnement du début.
Et dans votre contexte, du coup, souvent, il n'y a pas forcément une attente particulière d'un livrable particulier. L'intention, c'est vraiment d'ouvrir les perspectives, de découvrir, et après, ça va se faire par effet rebond.
C'est ça, je dirais, la grande majorité des relations qu'on a avec des organisations, des entreprises, c'est ça. Souvent, je dirais que c'est peut-être dû aussi au fait que la pratique des infections n'est pas très connue, même si, voilà, il y a des podcasts comme le tien pour en parler, mais justement, on en parle maintenant parce que, il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre un peu ce que ça apporte, les limites aussi. Et souvent, c'est un peu ça, il y a l'envie d'une équipe un peu de sortir de leur quotidien ou de dirigeants, de sortir de leur manière de penser actuelle. Ils ont besoin un peu d'un électrochoc ou d'une provocation qui vient de l'extérieur. Et nous, avec les infections, c'est ce qu'on apporte. Mais voilà, c'est pas une provocation qui est prédéfinie par le client, c'est nous qui, en regardant, en observant leur monde, on arrive à faire ça. Et après, il y a des moments ponctuels où il y a vraiment des gens qui connaissent beaucoup mieux les infections, qu'on a peut-être déjà pratiquées. Et dans ce cas-là, souvent, on dit, ben voilà, on a besoin d'une carte de Genève pour imaginer le futur de la mobilité. Mais vraiment, on pense que si vous réimaginez ça à travers la carte, ça va être... C'est exactement ce qu'on veut. Et là, vraiment, ben voilà, on travaille sur l'objet, l'archétype du design fiction spécifique, et on fait le travail à partir de ça. Mais voilà, ce qu'on aime aussi, c'est cette page blanche. Nous, c'est là, je crois, où on apporte quelque chose de différentiel. C'est cette perspective différente ou ces perspectives qu'on peut avoir différentes de disciplines multiples.
Et est-ce que vous, à chaque fois, du coup, vous avez une équipe qui a une équipe ou une direction qui a une volonté justement d'ouvrir les perspectives, elle va vous donner un peu son contexte, et après, du coup, c'est vous avec ton équipe qui allez travailler à faire cette proposition, ce prototype, pour ensuite ouvrir sur une discussion? Ou est-ce que des fois, ça vous arrive aussi de faire le travail d'imaginaire et de prototypage en co-design directement avec des personnes de l'entreprise ou de
Oui,
l'institution?
alors je dirais que le co-design, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement maintenant, encore une fois, parce que on voit et on a des demandes là-dessus, où il y a des équipes, typiquement des designers, qui ont besoin de sortir de leur quotidien, sortir de leurs problèmes ou de leur manière de travailler, de sortir de leur sprint agile, sortir de leur calendrier prédéfini et travailler avec nous. Et c'est là où il y a une demande qui est très intéressante. C'est où, avec notre expérience, on peut travailler avec des équipes qui ont cette soif de travailler différemment, de créer leur vision aussi eux-mêmes, les équipes eux-mêmes, pas seulement des dirigeants qui créent la vision, qui aident à créer la vision, et de travailler voilà, typiquement avec des designers ou avec des data scientists ou des ingénieurs à les aider à prototyper. Donc là aussi, cette modalité, pour moi, elle est très, très intéressante parce que c'est une manière, je trouve, encore plus, qui va encore plus chaud dans le but du design fiction, où on apprend cette mentalité, on apprend cette manière de penser en faisant, en créant. Et on n'observe pas un studio de design arriver avec un résultat, mais vraiment, ces équipes-là s'appliquent à le faire eux-mêmes et après à apprendre et pourquoi pas après continuer par eux-mêmes sans qu'ils aient besoin qu'on leur prenne la main.
Et dans ce contexte-là, je vais te partager, moi, par exemple, des difficultés que je peux avoir. Je vais avoir une équipe qui a envie, enfin une équipe de direction, qui a un peu comme tu le disais, pour sortir la tête du guidon du quotidien, prendre un pas de recul, c'est de se dire, bon, faut qu'on fasse un travail, il faut qu'on arrive à se projeter. Alors souvent, si on va se projeter à 2050, et donc du coup, on a envie de faire cet exercice de design fiction. Et quand il commence à y avoir les premières discussions, le kick-off avec les équipes, moi souvent, les gens, ils ont des têtes comme ça, tu sais. où ils ne voient pas trop du tout qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire par rapport à tout ça, avec toujours les questions qui sont oui, mais 2050, on ne peut pas savoir ce qui va se passer en 2050, je ne sais pas. Et du coup, ils sont un peu tout perdus. Et donc, c'est là où il y a tout le travail de préparatoire et d'accompagnement pour qu'ils puissent être à l'aise pour pouvoir ensuite rentrer dans la phase de travail sous format d'atelier. Toi, comment est-ce que tu arrives à accompagner les gens justement sur ce changement de mindset, sur leur dire, ben, là justement, l'exercice, ça va être de penser, comme tu disais, penser futur et penser imaginaire, et c'est un autre mode de pensée. Comment est-ce que tu arrives à les rassurer pour qu'ils puissent facilement switcher de mode?
Alors, une première chose, c'est de bien être clair qu'on va pas essayer de prédire ce qui va se passer en 2050. Il n'y a aucune prétention là-dessus. Et que c'est plus pour eux de faire des exercices réguliers de cette réflexion-là, de cette projection dans le futur, qui va les aider dans leur quotidien. Et c'est comme pour moi, c'est une pratique supplémentaire que doit avoir non seulement un dirigeant, mais je me répète aussi un ingénieur ou un designer qui participe à la vision de l'entreprise, qui doit pouvoir avoir un espace de réflexion et un temps de réflexion sur le futur. Et nous, on les accompagne en disant, voilà, ici, on a un espace de sécurité, en sécurité, safe space, dans lequel ce qu'on va créer, il n'y a pas, personne va faire une erreur et personne va provoquer un problème avec ce qu'il va créer parce que c'est un monde, c'est le futur. C'est le futur où il n'y a pas de conséquences parce qu'on est dans un, parce qu'on n'est pas dans le présent. En baissant un peu l'ambition, un peu comme ça, de voir solutionner le monde ou voilà, de voir prédire le futur, ça c'est une première chose. Et une autre chose, c'est vraiment de préparer ce terrain ou de dire, vous êtes ici pour pratiquer, de la même manière où vous allez à la, vous allez faire du yoga, vous allez à la gym, vous faites, vous entraînez régulièrement, eh bien, vous devez, nous pensons, nous, selon notre pratique, que vous devez aussi vous entraîner à réfléchir sur le futur, et ça, c'est une manière de le faire. On a un peu un type de faire des prototypes, de créer, de faire par eux-mêmes ou de participer avec nous dans la création. C'est une manière de réfléchir, c'est une manière de s'entraîner au quotidien. Donc, voilà, je crois que c'est la manière de bien fixer les objectifs de ce que l'on fait. C'est une première chose. Et après, montrer beaucoup d'exemples de ce qu'on a fait. Je crois que souvent, c'est en montrant des exemples de ce qui a été fait qui provoque un peu que les gens comprennent que, ah ben oui, si on explore le monde, la version future d'IKEA, ben voilà ce qu'on peut comprendre. Ou cette démarche un peu de science-fiction, ben voilà, ça fait partie de la culture de tout le monde. On baigne là-dedans, donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc garantir cet espace où les gens ne vont pas avoir ce sentiment qu'ils vont se tromper, ça c'est important et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile dans certaines cultures et dans certaines équipes avec lesquelles on collabore où on a besoin de planifier, on a besoin d'être sûr des étapes qu'on va suivre. Et ben ici on doit travailler dans un niveau de d'incertain. Ou de, en anglais, ambiguity, dans lequel, bon, voilà, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'est pas tout à fait sûr où c'est qu'on va arriver, mais l'important, c'est de le faire. Et l'important, c'est de pratiquer. Et voilà, nous, on est là pour garantir que les gens le font et pratiquent.
Est-ce que justement pour pouvoir préparer les gens en amont, en plus des exemples, toi moi, justement pour le projet que j'ai en tête là que je suis en train de préparer, je sentais qu'il y avait un besoin. On est dans un milieu qui est très ingénieur aussi, donc du coup l'équipe de direction était pas ultra rassurée sur la capacité à pouvoir s'ouvrir rapidement, surtout qu'on était sur un format adapté qui était sur 3 heures, tu vois, juste pour la phase imaginaire qui est très court. Du coup, ils se sont dit, bon, on va monter une petite équipe de 4 personnes qui vont être des pré-explorateurs et qui, du coup, vont créer une sorte de bibliothèque d'inspiration qu'ils vont pouvoir présenter en début d'atelier. Et ensuite, on va demander aux gens de pouvoir partir de ça et de réagir par rapport à ça. Et donc, du coup, moi, dans cette bibliothèque-là, je leur ai regrouper un petit peu des courants, des tendances, que ça soit des choses qui sont de l'ordre de la prospective, on va dire un peu comme des rapports de l'ADEME ou des choses comme ça, parce que c'était pour le côté un peu pour les profils qui sont plus rationnels et qui veulent être sûrs de pas être complètement en train de créer un truc qui est allumé. D'autres des choses qui viennent du solarpunk ou d'autres types de tendances de futur souhaitable. Est-ce que vous avez ce fonctionnement-là aussi à essayer de donner des bibliothèques d'éléments en entrée où vous constituez peut-être ça depuis des années et du coup vous l'ouvrez justement quand vous travaillez avec des boîtes?
Alors, non, ta démarche est exemplaire. C'est ça, de créer cette bibliothèque d'aspiration. Je crois que c'est un des éléments fondamentaux au-delà des exemples qu'on peut donner, mais c'est vraiment se rendre compte, un peu cartographier les imaginaires d'une entreprise ou d'une équipe, se rendre compte à quoi est-ce qu'ils pensent, quelles sont leurs références. Ça, c'est un travail à faire. Après, il y a aussi le travail. Ben voilà, quelqu'un qui vient de l'extérieur, de dire, ben voilà, rajouter des ingrédients qui n'étaient pas, qui font pas partie des imaginaires que cette équipe peut avoir. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est aussi, souvent, il y a des réticences. Les gens vont dire, ouais, moi, ça, on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Alors, typiquement, pour une équipe d'ingénieurs ou des gens qui sont un peu plus rationnels, comme tu dis, on essaie de les aider à réfléchir. Non, mais voilà, dans le futur, il y a peut-être certaines contraintes qui ont disparu, des contraintes d'aujourd'hui qui ne sont plus là maintenant. Et parfois, non, voilà, on peut donner des exemples où radicalement, les technologies ont changé. Tout d'un coup, l'intelligence artificielle a fait un pas qui était peut-être il y a 5 ans qui n'était pas attendu par une équipe d'ingénieurs qui fait des choses maintenant qui sont extraordinaires pour ce qu'on voyait il y a 5 ans. Donc, typiquement, voilà, on essaie d'ouvrir aussi les mentalités, voilà, en essayant les gens de ne pas réfléchir avec leurs contraintes, essayer d'un peu quitter un peu le bagage qu'ils ont accumulé dans leur entreprise, organisation, encore une fois, d'enseigner l'expérience et de parfois peut-être de les revisiter, de reprendre des choses qui ont été faites. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, inviter à l'observation. Nous, on passe aussi beaucoup de choses qu'on fait. C'est une partie de un peu réfléchir dans le futur, c'est observer le présent. Il y a le présent de certains, c'est le futur d'autres. Et souvent, d'avoir l'œil aussi dans la rue, ce qui se passe, ou lors de voyages, de pouvoir comme capturer des moments, comme capturer des comportements, capturer des technologies, capturer des interfaces. C'est le genre de choses que nous, on fait, mais on invite aussi les gens, typiquement dans les équipes ou des équipes qui sont distribuées un peu dans le monde. Voilà, l'équipe en Chine, ben, on aimerait savoir ce qui se passe dans la rue à Shanghai. Donc, des fois, d'avoir des aspirations qui viennent non seulement des imaginaires, de la science-fiction ou du monde de la recherche, mais qui vient aussi du quotidien de la rue. Ça, c'est un élément aussi important qui permet aux gens vraiment de se rendre compte qu'il y a une réalité qui peut-être pour eux est extraordinaire ou pas possible, mais qu'il l'est.
Ça, c'est intéressant parce que moi, je le vois vraiment aussi. En effet, il y a des entreprises, quand on travaille avec eux, ou même des institutions d'ailleurs, il y a des vrais écarts de temporalité entre les entreprises. Il y a vraiment des entreprises, des institutions qui ont un décalage, on a l'impression, de 20 ou 30 ans par rapport à d'autres, alors qu'on est sur la même époque. Et du coup, c'est intéressant, ouais, en effet, de les inviter à observer aussi ce qui se passe là maintenant, mais dans d'autres mondes au final, parce qu'on est tous dans le même monde, mais dans le monde, il y a plein de mondes différents qui sont sur plein de temporalités, de sensibilités différentes.
Oui, c'est ça.
Et pour faire la jointure entre ton travail tu pourrais me donner un exemple d'un projet que vous avez pu faire où c'était une équipe justement de direction qui avait besoin de travailler sur la vision de l'entreprise. Et qui aurait fait appel à vous pour les aider là-dedans, juste pour la suite du processus un peu pour comprendre comment est-ce que après avoir ouvert les imaginaires et prototypé des choses et rebondi et conversé dessus, comment est-ce que eux ils arrivent à fixer quelque chose comme une vision qui va pouvoir être là pour venir porter l'entreprise et tracer peut-être des lignes en fait vers l'avenir.
Une histoire que j'aime bien raconter, c'est celle avec un client qui est BBVA, une banque espagnole mais aussi globale, présente globalement, qui était un client en sortant de ma thèse quand on a créé New Future Italy. C'était un des premiers clients qui était intéressé en fait à comprendre le futur de la banque dans la Smart City. Et surtout la relation d'une banque avec ses données. Et on a travaillé voilà sur différents prototypes qui l'ont aidé à comprendre en fait le rôle de la donnée dans la banque, des choses qu'on peut penser que maintenant c'est trivial, mais je répète, il y a 10 ans, c'était pas si simple que ça. Et c'était dans une banque de plus de 100 000 employés, il y avait 3 personnes qui travaillaient là-dessus. Et on a commencé sur le projet pour les aider en fait à élaguer, destricher, comprendre ce nouveau monde, ce nouveau terrain qui se présentait à eux, le monde des données, le monde des algorithmes, les systèmes de recommandation. Enfin, c'était il y a 10 ans, donc maintenant c'est des choses communes. Et en travaillant avec eux, plus on a avancé, plus ils ont grandi. Plus les idées ont grandi, plus les initiatives sont devenues importantes, jusqu'à un moment où ils m'ont offert d'entrer en fait dans la banque et de me co-mener leur équipe de data scientist et de co-diriger donc la partie la création de toutes les capacités analytiques. Basé sur machine learning et puis l'analyse de données de la banque. Et moi, dans la co-direction, ben, je m'occupais un peu de la projection de où est-ce que cette capacité-là, ces capacités-là, ces gens-là pouvaient aller et quel genre de banque et de service et d'expérience pouvait être créé à partir de ça. Voilà, une de mes pratiques avec mes équipes étaient sur design fiction. Souvent, je ne le présentais même pas de cette manière-là. Je ne leur disais pas on va faire design fiction. Je disais on va réfléchir avec les capacités qu'on a maintenant, le genre d'algorithme qu'on est capable de faire, le genre de données qu'on a accès ou les données qu'on pourrait avoir accès dans le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en relation avec les services bancaires et au-delà de ça. Et c'est là, ben voilà, dans notre pratique, non seulement on faisait des modèles, mais on faisait aussi des prototypes, des publicités de fiction sur des services qu'on imaginait. Encore une fois, l'intention, c'était jamais de pouvoir de dire ben, c'est exactement ça qu'on a besoin de faire et de présenter ça de manière interne. Mais voilà, de provoquer l'imaginaire du reste de la banque, du reste des collègues qu'on avait dans la banque, sur les capacités, nos capacités analytiques. Donc, c'est pas une demande qui venait vraiment d'en haut, même si la culture de réflexion au futur venait certainement d'en haut. Cet espace de liberté, de réflexion sur le futur venait vraiment d'en haut. Eh bien, cet espace, on l'a pris. Et voilà. Et le genre de fiction qu'on crée, de prototype qu'on crée, ben, parfois arrivait tout en haut à la direction. Et un cas typique, c'est quand on avait décidé un été de refaire, de repenser les publicités de la banque et de les projeter dans le futur, donc 5 ans dans le futur, avec nos propres capacités analytiques. Donc, on a un peu hacké les publicités, on a un peu hacké le visuel, et puis les slogans. Donc, il y avait une sensation que ces publicités n'étaient pas actuelles et qu'elle venait du futur. Et typiquement, voilà, quand les dirigeants de l'entreprise ont vu ça, ils ont dit, ah, voilà, maintenant, c'est pas une révélation, mais pour la première fois, ils voyaient pas le futur avec un PowerPoint et une présentation souvent technique, qu'ils avaient de la peine à comprendre, et ce qui était normal, mais ils le voyaient de manière très tangible, comment est-ce qu'on pouvait transformer ce qu'on faisait dans un langage que comprenait et dans un environnement avec les stratégies qu'eux avaient en tête. Et c'est à ce moment-là que ces graines, soit je veux dire, on plantait des graines dans l'entreprise, on laissait ce type de fiction un peu se disséminer à travers la banque, à travers différents événements, à travers différents types de contenus qu'on pouvait faire. Et voilà, jusqu'au moment où on nous a demandé de prendre ce contenu, cette publicité, par exemple, et c'est les dirigeants eux-mêmes qui ont édité, qui ont voulu éditer la publicité, la refaire, la redesigner par eux-mêmes et les utiliser dans leur communication sur la vision de l'entreprise. Donc, un peu, l'histoire que je te raconte, c'est un peu du bottom-up, parce que vraiment, c'est à travers l'initiative de certaines équipes que ces graines, ces petits moments de vision ont pu être distribués jusqu'à un moment où ça arrive et ça germe souvent. Ben voilà, l'équipe de direction, et le plus beau moment, c'est quand l'équipe de direction s'en approprie et crée sa propre vision à partir de ça. Donc, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, mais ils ont créé la propre vision. Mais nous, on a amené un peu le support, le contenu qui leur a permis de les aider dans leur vision. Donc, pour que ça arrive, il faut quand même que l'équipe de direction soit prête un peu à avoir d'autres manières de travailler et sortir des PowerPoint et sortir de l'Excel ou des dashboards. Et c'est un peu ça, la chance qu'on a eue, c'est aussi d'avoir une équipe de dirigeants qui était prête à ça.
J'imagine que dans d'autres exemples ou d'autres types de contextes, le fait d'avoir justement des objets comme ça, comme vous produisez, tangibles, que ce soit des publicités, que ce soit le magazine d'IKEA que tu disais ou d'autres exemples que tu pourrais me partager, c'est. Enfin, que ce soit une direction, qu'ils aient des habitudes ou pas, j'imagine que ça reste des humains et que donc, du coup, quand tu as cet objet tangible, c'est toujours beaucoup plus efficace. Qu'un long discours ou qu'un storytelling qui est posé sur des slides, justement, des choses comme ça. T'arrives, j'imagine, même avec des directions peut-être un petit peu plus résistantes, avec un bon objet, à les faire réagir plus facilement, non?
Oui, c'est ça. Là, je reviens un peu à ce que j'expliquais au début avec mon expérience au MIT, où on utilisait les démos urbaines, comme on appelait ça, où vraiment on projetait les capacités qu'on pensait pouvoir avoir, le type d'analyse qu'on pensait pouvoir faire avec les villes. Et c'est vraiment là où j'ai vu voilà, des maires de grandes villes ou des dirigeants d'entreprise dire, ah ben, voilà, ça, c'est ce que je veux qu'on fasse. Ça, c'est ce que je vois où je vois les opportunités. Je ne veux pas dire que ça se fait. Il y a bien sûr un terrain dans lequel se fait ça, et c'est pas là pour remplacer les PowerPoint ou les rapports. Mais pour moi, c'est un élément supplémentaire, et souvent c'est un élément qui fait la différence. C'est de pouvoir avoir ce côté tangible, et comme tu disais, le côté émotionnel, humain. Souvent, les gens se rappellent de ça, se rappellent ça, le moment où on a fait la démo, où on a fait la présentation. Ce moment où la personne pense, mais ça existe ou ça n'existe pas? C'est de la réalité ou c'est de la fiction? Est-ce que je peux l'avoir demain ou c'est dans 5 ans? Et souvent ça, ce moment-là, je crois que ça reste dans l'esprit des gens plus qu'un schéma dans la page 25, d'un rapport. Encore une fois, ça aussi c'est nécessaire pour créer le terrain, mais ça vient aussi complémenter. Donc, c'est on montre le futur et on peut aussi le décrire, mais on peut aussi le montrer. Et je crois que les deux sont valables. Et nous, avec Design Fiction, c'est un peu pour moi, c'est la nouveauté. C'est la capacité maintenant qui est beaucoup plus facile de prototyper, de créer qu'il y a 10 ans. Et voilà.
Et je trouve que ça a énormément de pouvoir montrer, pouvoir décrire un état des choses. Parce que, par exemple, quand j'ai pu bosser avec des gens qui étaient plutôt institutionnels, voire politiques, dans ce modèle mental-là, souvent, c'est avec les projections sont dans le futur, il y aura plus de coopération entre les territoires. Il y aura plus d'écoute au niveau des citoyens. Il y aura plus de démarches écologiques sur les bâtiments. Et en fait, c'est toujours un petit peu des. On n'est pas en train de décrire la chose, on est en train de dire il y aura plus de ça. Et donc après, moi derrière, je suis obligé de leur demander, oui, mais s'il y a plus de ça, alors ça ressemble à quoi? Et là, souvent, ça bloque parce que Bah, en fait, la pensée n'est pas allée jusqu'à imaginer à quoi ça ressemble. On donne des tendances et des tensions qu'on aurait envie de voir grossir, ce qui est la logique un peu d'un programme électoral ou de quand on donne des stratégies en entreprise. Mais mine de rien, si jamais on arrive plutôt à poser cet état des faits, si on est arrivé à mettre plus de coopération, par exemple, à quoi ça ressemble le quotidien, bah là, du coup, ça a beaucoup plus de corps. Et en effet, ouais, quand les gens sont sur ça, c'est beaucoup plus émotionnel, ils s'en souviennent. Et puis au final, ils comprennent, en fait. Tu me dis plus de ça, ok, bah là, maintenant, tu viens de me montrer à quoi ça ressemble, le quotidien, comment il se déroule, ok. C'est vachement intéressant.
Eh bien,
Et donc, vous avez quoi comme...
je voulais juste
Vas-y,
rebondir sur
dis-moi.
ce que tu dis parce que je trouve que c'est aussi important. C'est la capacité, en fait, voilà, il y a ces visions d'un futur qui sera d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est une vision positive. Enfin, on veut que ça soit positif, on veut du changement positif. Mais justement, l'approche design fiction, c'est aussi une manière de questionner les hypothèses qui sont faites. Enfin, on fait une hypothèse et comme tu disais, voilà, mais ça ressemble à quoi alors? Et si vraiment on fait l'effort de faire le design de ça, de le représenter, c'est là où on se rend compte en fonction de l'hypothèse que vous avez, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Et de se rendre compte que si on le fait, quelles sont les conséquences alors? Et c'est là où des fois, voilà, le design fiction, c'est une manière, on ne crée pas un monde utopique du futur, c'est pas la dystopie. Mais on est là pour. Souvent, on dit qu'on fait 70% qui est. On va vers le positif. On a peut-être 20% qui est un peu neutre. Et un 10% qui est en fait critique. On est là aussi pour questionner l'hypothèse de départ ou l'idée de départ et de provoquer, en fait, savoir est-ce que c'est vraiment le genre de monde que l'on veut ou est-ce que c'est vraiment le genre de conséquences que l'on crée. Donc, je rebondis ce que tu disais parce que pour moi, c'est le
Ouais.
type, les conversations, c'est ça qui se passe après. C'est ce genre de réaction que l'on cherche, où c'est pas forcément de recréer le monde, tel un architecte qui va recréer la ville en trois dimensions, et puis on va visualiser le bâtiment parfait comme il sera dans un quartier. On va aussi montrer les choses qu'on pense que potentiellement ne peuvent pas fonctionner. Et montrer que le futur, en fait, c'est un mélange, comme tu le disais, il y a des entreprises qui travaillent il y a 20 ans en arrière, ben, elles font partie du présent. Et dans le futur, il y aura encore des entreprises qui sont 20 ans en arrière. Et en fait, le futur, c'est un mélange de passé avec de présent et de futur. Et souvent, dans les visions du futur qu'on voit, typiquement dans les entreprises, elles ont tendance à oublier ça. Et on prend que l'esthétique. Du futur pour la présenter une voiture, un prototype, typiquement dans les conditions parfaites, une cuisine automatique, intelligente, dans les conditions parfaites, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de vieux éléments ou de vieux outils. Alors que si on regarde le quotidien des gens, nos quotidiens, eh ben, tout le monde ne vit pas dans des mondes comme ça. Souvent, on a un mélange de nouvelles technologies, d'anciennes technologies, de nouveaux comportements dans ces comportements. Et pour moi, c'est là que le fanfiction a toute sa richesse, surtout en relation avec les décisions dans le domaine politique.
Et est-ce que tu as déjà eu des exemples où, parce que ça, je trouve ça vachement, vachement percutant et vachement fort aussi, où une entreprise ou une institution ont un peu leur stratégie qui sont posées et en gros les directions dans lesquelles ils veulent avancer. Et quand tu fais le travail d'imaginaire sur là où on pourrait en être justement si jamais ça avait abouti, et ben ils décrivent quelque chose et en le décrivant se rendent compte qu'en fait c'est pas souhaitable. Et là, ça provoque un déclic, et du coup, on est dans cette situation du futur non souhaitable. Et on revient, on se dit, attends, mais du coup, toutes les stratégies qu'on a mises en place, ça nous amène à ça, qui n'est pas souhaitable. Et là, il y a le mindfuck qui rentre un petit peu et la nécessité de retravailler ces stratégies. Tu as déjà eu ce type de situation?
Oui, j'ai pas un grand chambardement de stratégie qui a été provoqué dans mon expérience, mais il y en a une, par exemple, en revenant sur le cas de BBVA. Cette banque, dans les travaux qu'on faisait, les prototypes, les fictions qu'on crée, Il y en a une qu'on avait appelée, on aime bien nommer les choses, une qu'on appelait les rues de BVA. Les rues de BVA, c'était une manière, en fait, d'analyser les rues à travers les données, les transactions bancaires, les transactions qui se passent, les paiements qui se passent dans la rue, de différentes villes, du monde entier. Et le fait d'avoir nommé ce projet les rues de BVA a provoqué, en fait, un backlash, une réaction en disant, mais on peut pas prétendre prendre possession de la rue. Enfin, c'est, même si l'idée, bien sûr, du départ et l'exploration qu'on faisait, les expérimentations qu'on faisait, nous a ouvert l'esprit sur comprendre qu'est-ce qu'on pouvait analyser à partir, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre à partir d'analyse de données, de transactions bancaires, par exemple. La fiction, a créé la réaction en disant, mais oui, on n'a pas la prétention d'être une banque qui, en fait, avoir la connaissance de la rue plus que d'autres. Et là, c'est un peu, encore une fois, c'est dans la mentalité qui avait un peu, pas en arrière, en disant, bon, voilà, on comprend certains aspects, mais n'ayons pas la prétention de devenir les gens qui vont orchestrer la rue dans le futur. Et voilà, je me rappelle de ça parce que ça, c'était une bonne leçon. Une bonne leçon. Et je suis content que ça, je suis heureux que ça soit arrivé, que ça se, c'était pas voulu. Mais je suis content que, il y a eu cette réaction-là où, en fait, ils se sont un peu repositionnés leur rôle en tant que banque dans la Smart City, un peu repenser vraiment quelle est. Et là, ils ont compris qu'on était allé trop loin, dans la manière de présenter. Encore une fois, on était dans la fiction, on était dans le futur, on était dans l'expérimentation et on n'a rien cassé. Personne n'a été affecté par ça parce que justement on était dans un espace un peu où c'était possible de faire ça et possible de faire ce genre en guillemets d'erreur et de provocation qui en fait a bien servi.
Toi, j'imagine que que comme tous les humains, t'as tes propres futurs souhaitables. Et du coup, je me questionnais, est-ce que dans l'autre sens, tu essayes de travailler avec, par exemple, certaines entreprises ou certains territoires, où par rapport à l'état où ils en sont dans le présent, tu vois très bien que ce qu'ils vont faire va amener vers un futur que toi, tu ne voudrais pas. Et du coup, de leur proposer de faire ce travail d'imaginaire et de fiction pour justement, ils puissent se rendre compte que peut-être, pour eux non plus, ça n'est pas souhaitable d'en arriver là où ça en arriverait. Tu vois, d'utiliser le design fiction pour ouvrir la conscience sur certaines choses s'ils n'ont pas fait le chemin et que du coup ça puisse venir peut-être chambouler deux trois choses dans l'organisation.
Oui, en toute humilité, j'ai cette prétention-là un peu avec certains organisations avec qui on travaille, typiquement le département de la Défense en Suisse, il y a un même client, qui font des travaux de prospective et qui est un peu dans cette dynamique de comprendre le futur de la défense d'un pays comme la Suisse. Typiquement, c'est pas forcément le genre de domaine où où mon imaginaire est. Mais leurs questionnements sont bons et leur manière de travailler est bonne. Et j'aime travailler avec eux justement pour apporter une perspective différente et montrer un futur qui n'est pas uniquement basé sur l'armement et que le rôle d'une armée ou peut-être quelque chose à voir avec la crise environnementale qu'on a et qui vient encore plus et les fait réfléchir en fait sur des thématiques avec elles ils sont pas forcément ils n'ont pas l'habitude de réfléchir. Donc eux ils sont demandeurs de ça et ils sont demandeurs et même les hauts gradés sont demandeurs de changer, d'avoir une perspective différente parce que typiquement, on me glisse à l'oreille, voilà, ça fait 30 ans que je suis ici, mais on a besoin d'air frais, on a besoin de perspectives fraîches. Nous, on vient avec ce genre de perspectives fraîches. Encore une fois, en toute humilité, on n'est pas là, je crois pas qu'on n'a pas la prétention de changer toute une culture d'une organisation avec une longue tradition, mais on plante des graines. Et je préfère faire ce travail de planter des graines et d'aider dans la vision que d'être à l'extérieur en critiquant ce qu'il se passe. Et qui des fois, c'est ce que je peux voir. Donc, voilà, on va pas travailler sur dans certains domaines ou avec certaines entreprises. Ben voilà, un peu comme toi tu décris. Moi, je préfère être un élément actif et l'élément voilà qui apporte le 10% de critique ou une perspective différente parce que voilà, souvent que ce soit au département de la défense, mais aussi dans les organisations, ben, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir d'autres perspectives ou avoir une critique de ce qu'ils font ou justement d'avoir quelqu'un qui a l'avis contraire. Et trop souvent, je crois maintenant, on a les dirigeants sont entourés de gens qui vont leur dire, ils vont acquiescer ou qui vont abonder dans leur sens. Ou typiquement des grandes entreprises de consulting qui vont leur faire vraiment décrire le chemin idéal et sans avoir l'esprit contraire. Et ben voilà, des fois on vient un peu avec le quand on a la mentalité un peu français ou latin comme ça, on aime aussi aller dans la contradiction et c'est là où le design fiction est intéressant. Et donc voilà ma la position de quelqu'un qui essaye humble, de manière humble d'influencer.
Est-ce que tu dirais qu'il y a de plus en plus d'ouverture et de recherche sur justement avoir plus de vision, plus d'imaginaire? Tu vois un peu dans la continuité de la nécessité d'avoir des nouveaux récits pour justement pouvoir se projeter dans l'avenir de manière plus sereine, de manière plus ouverte, de manière plus positive. Est-ce que toi aussi tu perçois ça du point de vue des projets que tu mets en place ou que tu accompagnes?
Oui, je crois. Oui, sans faire de généralité, bien sûr, mais je crois que oui. Et surtout avec les changements qui viennent actuellement, avec l'automatisation, avec le changement climatique, je crois qu'il y a la besoin d'avoir des récits qui sont aussi. C'est un peu, voilà, pour moi, c'est la prochaine frontière. C'est vraiment d'avoir des récits que les gens comprennent, qui sont à eux aussi. C'est-à-dire que ces problématiques-là, ces changements, comment est-ce que ça les affecte et les affectera au quotidien? Et c'est le genre de projet que, voilà, Design Fiction essaie toujours de faire ça, c'est-à-dire d'être proche du quotidien, en fait. On ne crée pas un imaginaire, encore une fois utopique, mais souvent on recrée les choses qui sont des objets du quotidien, des objets que tout le monde comprend. Et voilà, typiquement, j'ai l'impression que maintenant, on passe à l'étape où on est conscient des problèmes qu'il y a. Je crois pas qu'on a besoin de plus de récits de comment est-ce que le monde va changer avec quand on aura plus que 2 degrés. Je crois qu'on a beaucoup d'idées. Comme toi, tu disais un peu, on sait, on connaît l'histoire un peu comme les hommes politiques avaient. On devra plus collaborer, on devra plus. Alors maintenant, spécifiquement, pratiquement, ça veut dire quoi pour moi? Enfin, pour moi comme citoyen, pour moi en tant qu'ingénieur, pour moi en tant que data scientist. Et je crois que c'est là où les récits doivent se transformer, encore une fois, dans quelque chose qui est accessible et tangible pour tout un chacun. En tout cas, voilà, pour une audience qui est un peu plus large et qu'on sorte un peu du monde abstrait. Et encore une fois, peut-être basé sur la peur, les médias sont très forts pour ça aussi, d'avoir certains récits. Mais voilà, c'est le moment aussi de faire un challenge de ça, de dire, mais voilà, ben, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, on n'est pas, on va dire, il y a pas mal de personnes qui travaillent vraiment là-dessus maintenant, qui essayent de faire comprendre spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, sans la prétention de prédire comment ce que sera le monde avec plus de degrés de température globale, mais voilà, d'avoir des idées pour que maintenant, on puisse discuter du genre de conséquences qu'il y aura, d'une manière pratique et avec une vision qui est tangible.
Je te rejoins, je trouve que c'est super important de retomber sur vraiment la proximité avec la personne et son quotidien et des choses pratiques, dans le sens où, que ce soit en atelier ou en général, j'ai l'impression que quand un humain est soumis à un récit ou une histoire, mais qui est partagé un peu comme si c'était du point de vue global, donc 2050, ça va être comme ça, la planète, ça va être comme ça, les pays, les choses comme ça, ou même la manière dont dont les médias projettent les choses, ou même quand il y a la prospective, comme des choses comme l'ADEME ou des choses comme ça. Le problème, c'est que du coup, la personne, quand elle lit ça, elle se l'approprie, mais comme si elle était du point de vue global. Et donc, du coup, elle aurait potentiellement envie de réagir de ce point de vue-là, comme si elle était Dieu, tout puissant, qui pouvait peut-être agir là-dessus. Puis en même temps, elle se rend compte que bah non, elle n'est pas Dieu, elle est juste une petite personne de tout ça. Et donc là, ça génère derrière une certaine forme d'impuissance. Elle se dit, bah oula, dans tout ça, dans toute cette complexité, bah, moi, je suis rien, je peux rien faire. Et ça génère des choses, j'ai l'impression, qui sont plutôt négatives. Alors qu'en effet, si jamais il y a un travail pour vraiment remettre dans un contexte global, toi, à ta place, à quoi ça va ressembler et comment est-ce que tu vas vivre là-dedans, j'ai l'impression que là, la personne se retrouve à être à nouveau à l'intérieur d'elle, elle peut faire des choses intéressantes. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment toi, tu arrives à mettre les gens dans leur point de vue à eux. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un exercice que je fais souvent, c'est après la phase un peu inspiratoire qui décrit les choses autour, globalement, comment ça peut être l'entreprise à 2050, par exemple, ou une ville, c'est de faire fermer les yeux aux participants et de leur dire, ben là, vous êtes assis sur un banc au milieu de cet environnement-là et vous regardez autour de vous. Et l'idée, c'est que ça soit un futur qui soit quand même souhaitable. Donc, du coup, ben, il faut que vous ressentiez des émotions qui soient positives, agréables. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez les pieds dans de l'herbe? Est-ce que vous avez les pieds sur du goudron? Enfin, voilà. Pour les remettre vraiment dans leur peau et après les inviter à se lever et puis à marcher et imaginer quelles activités ils ont dans cet espace pour qu'ils puissent se projeter dans leur peau à eux. Ça n'est qu'un exercice, tu vois, mais toi, qu'est-ce que vous utilisez comme outil ou comme exercice pour arriver à mettre les gens dans leur peau dans le futur?
Moi, une des choses, je crois, qui est importante, c'est l'écoute. Donc, c'est important de laisser parler les gens. Souvent, je note, voilà, je passe avec toi, je fais la même chose, je prends beaucoup de notes. Et je prends beaucoup de notes de termes, de mots qu'utilisent les personnes, la manière dont ils présentent ce qu'ils font. Et souvent, si c'est pas eux qui vont créer ou co-créer, voilà, j'essaie de reprendre leur langage, reprendre leur manière de décrire les choses, pour les projeter dans le futur. Et souvent, voilà, comprendre l'activité actuelle d'un professionnel, ce qu'il fait, le genre de technologie qu'il développe. Et après, comprendre la manière de le décrire, la terminologie, peut-être les nouveaux mots qui peuvent sortir de ça. Et après, le projeter dans le futur. Pour moi, c'est une manière vraiment qu'après, quand on fait le rendu, je crois que la personne ou le groupe ou l'équipe se revoit dedans parce que ils s'entendent un peu. Ils se voient, ils voient leur mot terminologie ou leur schéma. Des fois, voilà, on peut reprendre un schéma qui a été utilisé par une équipe pour décrire ce qu'ils font. Puis après, dans la fiction, ils se retrouvent un peu dans un coin, parler un peu, refait, projeté dans le futur. Donc, voilà, typiquement, au-delà de l'exercice que tu décris, qui me paraît très bien aussi. Il y a l'écoute et souvent, voilà, pour moi, il y a un travail de miroir, en fait, de ce qui est exprimé. Eh bien, on le reprojette, mais dans le futur. Donc écouter, ça peut être un dirigeant ou alors quelqu'un dans l'entreprise, l'écouter et puis après faire ce travail de projection. Donc, c'est un miroir qui est un peu... qui redonne pas l'image parfaite, mais l'image un peu dans le futur, et c'est là où les gens se revoient. Ce qu'on crée est très familier, en fait, avec leur monde. Donc, c'est une manière pour moi qu'ils aient une relation avec ce futur.
Oui, tu arrives à prendre des parts de leur identité et tu les remets dans un autre chose qui est du futur, mais en fait, ils sont encore dedans, donc ils retrouvent leur empreinte à l'intérieur.
J'ai eu un exemple, ça m'est arrivé cette semaine, une équipe, justement, avec qui je travaille, les designers avec qui je travaille, et dans la fiction, j'ai eu le prénom de ma fille. Et là, je sais pas à quel point ça a été intentionnel vers ça, ce moment-là, je peux dire qu'il est dans ma mémoire maintenant, ce futur-là, est dans ma mémoire parce que, voilà, tout d'un coup, j'ai une relation, je me dis, ah, waouh, oui, ma fille pourrait être cette personne-là, ma fille pourrait être dans cette situation-là. Et voilà, voilà, encore une fois, des détails. Souvent, ça se passe voilà, au niveau du détail, comme tu dis, prendre des choses de personnalité ou vraiment qui ont quelque chose à voir avec l'histoire et construire le futur à travers une évolution de l'histoire. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses que moi, cette semaine, je l'ai reçu en retour, voilà, en voyant cette fiction-là, mais si, voilà, personnellement, ça fonctionne très bien.
Trop bien. Et il nous reste une petite dizaine de minutes avant qu'on se quitte. Et du coup, moi, dernière question que j'avais envie de te poser, c'est vu que tu travailles régulièrement sur le futur, sur les imaginaires, c'est quoi à toi ton futur, le futur que tu projettes, c'est quoi ton imaginaire?
J'ai de la peine à répondre à ça. J'ai pas de grande vision vraiment de comment sera, ou comment est-ce que j'aimerais que le monde soit dans le futur. Bien sûr, voilà. Avec les enfants, j'aimerais que l'impact les changements qui viennent maintenant ne les influencent pas trop, voilà, qu'on saura anticiper aussi ce qui vient. Moi, je fais un travail presque très, très régulier sur, enfin, mon futur à moi, vraiment faire le travail. Je me projette régulièrement à 15 ans, mais voilà, à 15 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que dans 15 ans, j'arrive à faire ça. Encore une fois, sans avoir la prétention de prédire. Sans me donner un but de l'endroit où j'ai envie d'arriver, mais pour re-questionner perpétuellement mon quotidien. Alors, voilà, j'ai le désir d'un futur qui est partagé par une grande majorité des gens. J'ai rien de spécial là-dedans, mais voilà, pour moi, c'est un. J'espère qu'il y a un futur où il y a encore de la place pour la créativité, encore même plus de place pour la créativité. Et voilà. Et l'espace aussi, pour moi, des éléments, des choses que j'essaie de projeter, de protéger et que j'essaie que d'autres aussi protègent, c'est le temps de réfléchir. Souvent, c'est ce que je vois en entreprise, c'est les choses qui manquent. On court et puis en fait, voilà, 5 ans après, on se retrouve, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, il faut aussi savoir dans le présent, mais aussi dans le futur, avoir du temps pour pas essayer d'accélérer tout le temps et savoir se poser. Donc, pour moi, le futur, c'est être capable de prendre des pauses, à un certain moment accélérer et donner le temps, en fait, à beaucoup de gens de pouvoir réfléchir. C'est ce que je vois vraiment, c'est la ressource qui nous manque le plus maintenant dans le monde entreprise, c'est le temps. Et moi, j'ai l'impression que mon travail, c'est les gens qui m'engagent pour que je leur donne mon temps est utilisé parce qu'ils n'en ont pas assez pour pouvoir réfléchir au futur. Et voilà, j'espère qu'un jour, tout le monde aura suffisamment de temps pour réfléchir au futur qu'ils ont plus besoin de m'appeler pour le faire. Donc, c'est peut-être ça mon vœu dans le futur.
Et vu que tu as une connexion forte avec la technologie, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir ce temps dans le futur?
C'est toujours l'espoir, hein. C'est une relation. La relation avec la technologie, on a toujours rêvé que les objets nous feront gagner du temps. On se rend compte après que c'est pas le cas. Que c'est pas le cas. Souvent, ça nous fait accélérer. Souvent, ça nous remplit l'agenda. Ça nous fait faire d'autres choses, ça c'est sûr. L'intelligence artificielle va nous faire travailler différemment. Ça me fait travailler différemment maintenant qu'il y a 5 ans. Le côté créatif, voilà. J'ai un copil, j'ai des choses que je faisais avec les humains, mais il y a certaines choses. J'ai un copilote dans laquelle, voilà, il y a l'intelligence artificielle qui me permet de réfléchir aussi. Ça, c'est des choses intéressantes qui se passent. Mais voilà, je crois pas que Je crois que l'avoir du temps, c'est une manière d'approcher la vie plus qu'une question de technologie. Et on a toujours ce rêve-là qu'on aura plus de temps alors qu'on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça, notre relation avec la technologie.
En tout cas, je te rejoins sur la notion de temps. Il y a un des ateliers que j'avais fait, justement, c'était pour une entreprise qui voulait se projeter. On était sur 10 ans. Et du coup, il y a une des personnes. Ça n'a pas duré longtemps, la phase avec les yeux fermés. Ça a duré 2 minutes. Et au bout de 15 secondes, elle avait le sourire qui venait. Et ça, c'est le moment que j'aime bien, tu sais, quand ils sont comme ça, ils ont le sourire. Tu dis, ah là, c'est bon, ils sont connectés, ils sont bien. Et quand on a fait le débrief en ouvrant les yeux, elle me disait, bah, en fait, il y avait pas énormément de monde, parce que c'est une entreprise qui est en croissance. Et elle disait, bah, en fait, il y avait pas énormément de monde, parce que je pense que j'ai pas envie d'être au milieu de plein de monde. Peut-être que l'entreprise est plus grosse, mais en tout cas, nous, on n'était pas très nombreux. Et surtout, en fait, il y a tout qui allait doucement. C'était lent. Tout autour était lent. Les gens marchaient lentement. Moi, j'étais en train de travailler lentement. Tout était lent. Et elle disait, c'était génial. Juste ça qui lui a mis le sourire. C'est ce côté de, bon, en fait, il y a le temps. On n'est pas pressé. Et c'est vrai que moi, quand elle l'a raconté, vu qu'elle était connectée à ça, et j'ai regardé les autres participants aussi, bah, ça faisait cette résonance chez tout le monde de se dire, ouais, c'est vrai que ça serait bien quand même qu'on ait le temps. Et du coup, bah, moi, derrière l'atelier, je l'ai ralenti le rythme parce que je me suis dit, c'est quand même dommage, on essaie d'incarner dans le présent des choses qui sont des ambitions futures. Mais ouais, non, le sujet du temps bah, rejoint pas mal aussi le sujet du podcast, de la vision. Parce que c'est comme en fait, il n'y a pas le temps dans l'entreprise. Donc en fait, on est dans la réaction du quotidien et on ne prend pas le temps de reposer un peu une vision. Et au final, on en arrive au stade où des gens font plein de choses au quotidien. Et s'ils lèvent la tête, ben, il n'y a plus vraiment de vision qui les aide à se dire pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait. Et du coup, ça se retrouve à être une sorte de nage en inconnu, voire des fois dans des eaux un peu chaotiques. Donc je pense que c'est vrai que c'est important de prendre le temps, ou si tu l'as pas, de bosser avec des boîtes comme la vôtre qui vont pouvoir offrir des imaginaires. Mais au moins, il faut qu'ils aient le temps de pouvoir les découvrir, de pouvoir échanger dessus et de rebondir un peu
C'est
comme vous
ça,
faites
c'est ça.
pour redonner des perspectives, quoi. Super. Écoute, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. J'espère que tu as passé un
Mais
bon moment
bien
aussi.
sûr, je te remercie à toi.
Et écoute, est-ce que, je sais pas, il y a un projet futur, une sortie de quelque chose que tu auras envie de partager, je sais pas.
Oui, alors il y a toujours des projets. Il y en a toujours trop. Il y
Mais
en
c'est
a
pour ça
toujours trop.
que
Il y en a un qui me tient à cœur parce que ça fait des années que j'y pense. Mais maintenant, voilà, j'ai un peu de temps pour le faire. Je me suis alloué le temps pour le faire, pour mieux le décrire. En fait, je fais un atlas des cartes du futur. J'adore les cartes. Mon père était géographe. Et j'ai toujours aimé ça. Et en fait, la carte est un magnifique moyen, magnifique objet, en fait, que tout le monde comprend. Et je crée, voilà, donc j'ai mentionné la carte qu'on a fait pour la ville de Genève sur la mobilité, mais il y a d'autres cartes que j'ai créées et que j'aimerais que d'autres personnes créent, des cartes du quotidien, qu'on en relation au quotidien et qui, en fait, décrivent le futur. Voilà, j'appelle ça Futures in Maps. Et c'est un petit atlas que j'espère grandira jusqu'à devenir quelque chose que je pourrais imprimer un jour, j'espère. J'espère faire voyager voilà, les lecteurs à travers peut-être 50 cartes qui c'est le voyage du monde à travers les challenges qu'on a, les changements qu'il y a en passant d'une ville à l'autre ou d'un lieu à l'autre. Et chaque carte, en fait, va montrer des changements. Des choses qui n'ont pas changé, mais aussi des changements potentiels dans le futur. Voilà, c'est un petit projet qui me passionne parce que je crois que, encore une fois, c'est le genre de choses que cette idée que beaucoup de gens comprennent l'objet et que peut-être en le voyant, on comprendra comment est-ce que leur ville, leur marché, leur rue pourrait changer dans le futur en fonction du changement climatique, en fonction de l'arrivée de l'intelligence artificielle ou d'autres thématiques qui sont bien sûr dans l'air, dans le temps actuellement. Donc, voilà, non seulement moi, je fais les cartes, mais j'invite d'autres designers ou d'autres personnes à en produire et potentiellement, voilà, un jour, peut-être qu'on publiera ça et que beaucoup de gens pourront l'apprécier.
Et la forme de la carte, du coup, c'est vraiment une vue de dessus, comme une carte descriptive d'éléments qu'il y a sur un territoire ou
Voilà,
sur
mon
une
idée,
ville
c'est de
ou...
prendre les cartes du quotidien. Donc, on peut prendre la carte touristique, le guide touristique, la carte d'un parc d'attractions, la carte d'un parc, ici, j'ai à côté de moi un parc, voilà, un parc vert, le parc de la plage que j'ai, la plage que j'ai ici à côté de moi, a une carte aussi. Enfin, les cartes sont omniprésentes. Souvent, on les voit plus parce qu'on a le nez dans nos téléphones, mais elles sont là et tout le monde arrive à les comprendre, à les lire. Et elles ont beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup d'éléments qui parlent du présent. Et mon travail, ben, voilà, c'est d'essayer de les projeter dans le futur et tout ce type de cartes, panoplie de cartes dans lesquelles on a accès et qu'on utilise au quotidien. Comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à comprendre le monde que l'on va affronter voilà, dans 5 ans, 10 ans ou dans 15 ans. Donc voilà,
Ouais, trop bien, ça me fait penser
une
à...
petite initiative qui n'a pas de but lucratif, mais c'est encore une fois, ça fait partie de l'entraînement, mon entraînement à penser le futur, de faire ce genre de choses et voilà, de prendre le temps de le faire.
Ça me fait penser au petit magazine que ma fille reçoit tous les mois. Elle a 4 ans, ma fille. Et tu sais, c'est des magazines Pomme
Voilà,
d'Api, là,
oui.
pour enfants. T'as des jeux, t'as des petites histoires et tout. Et à la fin, t'as toujours une carte en fait qui peut représenter un parc ou un parc d'attractions ou quoi que ce soit où elle doit trouver des objets à l'intérieur et en fait c'est une situation de vie
Exactement.
et du coup oui je trouverais ça génial d'avoir le même type de carte qui du coup très présente dans ces magazines-là mais qui serait pour les adultes et qui serait là pour présenter une situation future avec des éléments qui seraient certainement très surprenants donc
Alors,
ouais, non très très
je
très cool
t'invite à
à
faire
faire.
cette carte de pomme d'api du futur.
Ok,
Quand
je
ta
note.
fille aura peut-être un enfant, il aura pomme d'api qu'elle pourra le présenter. Quel genre de carte il y aura dans pomme d'api dans le futur? Mais c'est tout à fait, c'est tout totalement ça. C'est ça, ce genre de carte que j'ai en tête aussi, ça peut être totalement mon fils joue avec des voitures sur une carte, un tapis comme
Oui.
ça. Voilà, typiquement, voilà, c'est un projet qu'on a fait, c'est le tapis du futur. Qu'est-ce qu'il y a sur ce tapis quand les voitures sont autonomes, quand les voitures sont électriques, comment est-ce que la ville aura changé? Et voilà, quels sont les éléments sur lesquels un enfant pourra jouer sur cette carte? Donc voilà, il y a tout un monde à réfléchir. Bon voilà, je t'invite à
Super. Ok,
participer.
je garde ça en tête.
Merci.
De refaire un pomme d'api. Super. Très bien. Je garde.
Très bien.
Merci encore pour l'échange. Merci
Un
pour ton
plaisir.
temps. Et puis, écoute, à bientôt. Et puis, je te partagerai aussi les futurs podcasts sur le même sujet pour croiser les visions sur design fiction et sur la vision d'entreprise.
Parfait. Merci
Voilà.
beaucoup. Merci Fabrice. Bonne
À très
journée.
bientôt à toi.
Bye bye.
Merci. Au revoir. Bonne
Ciao.
journée aussi.